SBS Radio.
Et on débute avec les grands titres de l'actualité pour ce 18 octobre. L'horreur en Crimée, une fusillade perpétrée par un collégien qui a fait au moins 19 morts et une cinquantaine de blessés. Les discussions de la dernière chance sur le Brexit ont lieu ces jours-ci à Bruxelles. Et en Australie, Scott Morrison, le Premier ministre, se dit favorable à un visa spécial pour l'agriculture. Morts et 50 blessés, plus l'attaquant, l'assaillant, c'est le bilan de la tuerie survenue dans un collège technique de Kerch en Crimée. Le président russe a fait respecter une minute de silence à Sotchi, où il recevait les dirigeants égyptiens. Les victimes ont été tuées par balles et l'attaque a été requalifiée en meurtre alors qu'une enquête avait été ouverte pour acte terroriste. Les autorités accusent un élève de 22 ans d'avoir abattu ses camarades avant de retourner l'arme contre lui. On écoute le porte-parole du président Vladimir Poutine.
Le président a reçu des informations de différents services. Le nombre de personnes tuées et blessées est vérifié régulièrement. Le président présente ses sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. Il a chargé le ministère de la Santé et celui des Urgences de prendre toutes les mesures nécessaires pour apporter une aide médicale aux personnes blessées dans l'attaque et, si besoin, permettre le rapatriement de ces blessés dans les centres médicaux de Moscou ou ailleurs en Russie. Le président a aussi demandé aux services fédéraux de sécurité et aux services d'enquête de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'établir les causes de l'incident. Nous attendons à présent des informations des services compétents.
Voilà, c'était donc Dimitri Petskov, le porte-parole du président Vladimir Poutine. La Crimée, vous le savez, est toujours au cœur des relations très tendues entre la Russie et l'Ukraine. Et à Kiev, les autorités ukrainiennes considèrent le drame comme une tragédie nationale. Récit de Sébastien Gobert.
Ce sont des citoyens ukrainiens qui sont morts aujourd'hui. Pour le président Petro Poroshenko, c'est clair, quand nos citoyens meurent, quel que soit l'endroit, c'est pour nous une tragédie. Le procureur général ukrainien en charge de la Crimée, en exil depuis 2014, a lui annoncé l'ouverture d'une enquête pour acte terroriste. Évidemment, les enquêteurs ukrainiens n'auront pas accès au lieu du drame, situé sur un territoire contrôlé par la Russie. La seule mesure que les autorités ukrainiennes ont pu prendre, c'est renforcer le dispositif de sécurité à la ligne de démarcation. Toujours est-il que les médias ukrainiens parlent abondamment de ce massacre et le considèrent comme un drame national. L'émotion est aussi palpable sur les réseaux sociaux. En tant que station balnéaire, la ville de Kerch est bien connue des Ukrainiens. Beaucoup adressent donc leurs pensées à leurs amis sur place. Quelques-uns pointent du doigt le contexte d'annexion comme un élément d'explication du drame, mais ce qui domine, c'est bien l'émotion d'une tragédie lointaine, considérée ici comme ukrainienne.
Voilà donc un reportage de Sébastien Gobert. Début aujourd'hui du Conseil européen à Bruxelles, ce qui devrait être un sommet décisif pour le Brexit, eh bien ne sera finalement qu'une étape. On parlait de moment de vérité, on en est encore loin, Anissa El-Jabri.
Ce qui est clair, et tous les dirigeants sont d'accord là-dessus, c'est que pour un accord de retrait, ça ne va pas se jouer dans les prochaines heures. Loin de là, la plus directe, c'est la présidente lituanienne. Avec cet avertissement, il n'y aura pas de percée aujourd'hui, pas de percée. Et beaucoup de chefs d'État et de gouvernement le soulignaient ce soir parce que la première ministre britannique, et ils le comprennent, disent-ils, est sous pression face à son Parlement, tout particulièrement sur le casse-tête de la frontière. Pas de frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, d'accord, mais où et comment la faire passer, nous attendons des propositions concrètes et créatives, a demandé le président du Conseil Donald Tusk en début de semaine. En tout cas, prolonger la période de transition post-Brexit, proposition du négociateur en chef Michel Barnier ces dernières heures, eh bien ça c'est non, c'est la porte-parole de Theresa May qui le dit. La première ministre britannique qui a bien vu Emmanuel Macron brièvement quelques minutes avant le dîner, mais rien n'a filtré. Le président qui a juste souligné à son arrivée avoir un message de confiance et d'urgence.
Et c'était donc Anissa El-Jabri. Le Premier ministre Scott Morrison a apporté son soutien à un nouveau visa pour les travailleurs agricoles étrangers afin d'aider les agriculteurs à faire face à la pénurie de main-d'œuvre pendant la récolte des fruits, notamment les fruits estivaux. La question a divisé la coalition avec le député George Christensen, qui est député du Queensland, qui lui avait déclaré que les travailleurs étrangers ne dépensaient pas assez d'argent en Australie pour donner un élan économique local. Fin de citation. Scott Morrison a quant à lui déclaré qu'il ne faisait aucun doute que son gouvernement était favorable à la mise en place d'un visa pour l'agriculture. Le Premier ministre a également déclaré qu'un soutien de 1,8 milliard de dollars était prévu pour les collectivités touchées par la sécheresse. On l'écoute.
And some additional work that is going to be needed in terms of our ongoing response. But it's not just about the relief. It's not just about the recovery, it's the long-term resilience and the future plan to ensure that we are more prepared, we are more resilient, and when it comes to dealing with droughts of this scale into the future.
Voilà donc le Premier ministre australien Scott Morrison. Les conséquences de la crise au Venezuela maintenant. Eduardo Stein, l'émissaire spécial de l'ONU dans le pays, réclame une aide financière d'urgence. Aide donc réclamée à la communauté internationale lors d'une visite en Colombie, principal point de chute des migrants vénézuéliens. Le pays ayant plus de 2000 km de frontière avec le Venezuela. On écoute Eduardo Stein.
La situation nécessite une aide urgente et c'est pourquoi nous allons faire appel aux donateurs gouvernementaux et à des agences privées pour qu'ils versent cette aide d'urgence le plus rapidement possible. La Colombie finance avec ses fonds cette avalanche humaine qui vient du pays voisin, mais cela ne suffit plus. Donc nous avons besoin de compléter nous-mêmes avec des ressources externes.
Entonces necesitamos que se complementen estos recursos con recursos externos.
C'était donc Eduardo Stein, direction de la Corée du Sud et la situation de près de 400 migrants yéménites qui sont arrivés dans le pays en début d'année. Ils se sont vus refuser le statut de réfugiés et de droit d'asile après une très forte mobilisation dans le pays contre la présence sur l'île de Jeju. Récit de cet épilogue depuis Séoul avec Frédéric Orjadias.
La présence de ces 500 yéménites coincés sur l'île touristique de Jeju affole depuis des mois réseaux sociaux et médias sud-coréens. Ces réfugiés cherchent à échapper à l'atroce conflit au Yémen. Ils avaient choisi Jeju pour son programme d'exemption de visa destiné à attirer les touristes. Mais dans une Corée du Sud encore peu habituée à la présence d'étrangers non asiatiques, leur arrivée avait suscité de violentes réactions xénophobes et islamophobes. 700 personnes ont signé une pétition demandant de durcir les critères d'accueil des réfugiés, un Coréen sur deux s'oppose à ce que le droit d'asile leur soit accordé. Les autorités ont finalement tranché, l'asile a été refusé à tous, 339 ont reçu un visa humanitaire valable un an, 34 seront expulsés, les autres attendent toujours une décision. Depuis 1994, la Corée du Sud n'a accepté que 4% des demandes d'asile. Suite à cette décision, la plupart des réfugiés yéménites vont donc pouvoir quitter l'île de Jeju où ils étaient bloqués. Ils pourront aussi chercher du travail, du moins jusqu'à l'année prochaine.
Et c'était Frédéric Orjadias. Cette question, quand exactement a eu lieu l'éruption du Vésuve qui a englouti la ville de Pompéi? Une inscription retrouvée et découverte ces derniers jours dans des décombres remet tout en cause. Pendant deux siècles, tous les spécialistes pensaient qu'elle avait eu lieu en août 79 de notre ère. Ceci ne semble pas être le cas. Les explications de Stéphane Jonast.
Deux lignes inscrites au charbon de bois sur le mur d'une maison de Pompéi ont suffi à refaire l'histoire. Et dans cette inscription, il est précisé une date, celle du 17 octobre de l'an 79 de notre calendrier. Le problème, c'est que les historiens ont établi l'éruption du célèbre volcan deux mois avant. Et si la ville a été ensevelie sous les cendres du Vésuve à la fin août, son auteur n'a pas pu écrire ce minuscule texte après. D'autres indices confirment cette thèse. Des recherches récentes ont permis de découvrir la présence de fruits d'automne à Pompéi, que les vendanges étaient terminées et que les habitants portaient des vêtements épais, vêtements que l'on ne porte pas en août. Certains historiens précisent même qu'au Moyen-Âge, un copiste s'est trompé dans la date et que son erreur s'est répercutée jusqu'à aujourd'hui. Tout laisse donc à penser que l'éruption catastrophique du Vésuve a bien eu lieu à la mi-octobre de l'an 79 après Jésus-Christ.
Histoire fascinante de Stéphane Jonast. Coup d'œil météo en cette fin de journal. Tour d'horizon donc à travers le pays. À Perth, il fera 19 degrés. Adélaïde, 21. Melbourne, 21. Hobart, 22. Canberra, 23. Sydney, 24 degrés. Brisbane, 26. Cairns, 31 degrés. Et Darwin, 33 degrés. Un retour sur les grands titres de l'actualité donc en ce 18 octobre. L'horreur en Crimée, une fusillade perpétrée dans un collège fait au moins 19 morts et une cinquantaine de blessés. Les discussions de la dernière chance sur le Brexit ont lieu ces jours-ci à Bruxelles. Et en Australie, Scott Morrison, le Premier ministre, on l'a entendu, se dit favorable à un visa spécial pour l'agriculture. Voilà, c'est la fin de ce journal. On fait une courte pause et dans quelques instants, on retrouve Jean-Noël pour le journal des sports. A tout de suite.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.